Jean-François Rial, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Voyageurs du Monde. On va parler avec vous de tourisme, de voyage, voilà, dans cette période compliquée. J'ai vu que récemment, vous étiez, je dirais, vous étiez en colère par rapport à certaines mesures qui ont été prises par le gouvernement sur cette fermeture des frontières. Peut-être avant d'en reparler déjà, comment va Voyageurs du Monde, société cotée, spécialisée dans le tourisme qu'est-ce que vous faites dans cette période où on voyage très peu, finalement?
Eh bien, d'abord, Voyageurs du Monde va bien malgré la situation catastrophique sur les voyages. Voyageurs du Monde va bien parce que tout simplement, Voyageurs du Monde a des grandes réserves. Et donc, on peut traverser cette crise avec une très grande sérénité financière. On n'a pas de dette, on a beaucoup de fonds propres, on a des réserves cash très importantes. En plus, on a un PGE de 50 millions d'euros, mais qui ne nous sert à rien. Mais c'est toujours confortable de l'avoir. Et je dirais que qu'est-ce qu'on fait? Donc, Voyageurs du Monde va bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on applique ce qu'on appelle la stratégie du hérisson, c'est-à-dire qu'on fait on ferme le dos, on se planque, on baisse nos coûts le plus possible. On bénéficie quand même des aides gouvernementales qui sont importantes, même si on y reviendra. Et je dirais qu'on met un maximum de gens au chômage partiel, on baisse nos coûts, on fait partir le peu d'activité qu'on a. Quand on a des petites éclaircies au mois de juin, juillet et au mois de décembre, janvier, ben on en profite. L'envie de voyage est là, les consommateurs sont là, les clients sont là. Il n'y a plus qu'une chose, je pense que c'est de voyager. Et puis en attendant, mais enfin, on fait le dos rond, quoi, voilà. Et puis la clé pour nous, elle n'est pas financière, elle est de je dirais, pas perdre de morale de nos équipes, quoi, vous voyez, parce qu'ils sont au chômage partiel à 80%. En moyenne, 75%, 70%, parfois 100%, hein, pour certaines activités complètement à l'arrêt. Eh bien, tout notre travail, ça consiste à les informer, les rassurer, parler avec eux, pas perdre l'ADN de l'entreprise. Vous voyez, par exemple, hier matin, j'ai fait une petite conférence Zoom avec tous nos salariés pour leur exposer ce que je voyais de la situation sanitaire, ce que je voyais de la reprise d'activité. Et puis répondre à toutes les questions qu'il voulait, sans filtre, quoi. Voilà, voilà ce qu'on fait.
Alors, dans cette période aussi, on a beaucoup parlé de digitalisation, hein, d'accélération de cette digitalisation par les comportements effectivement des consommateurs. Est-ce que vous, dans votre domaine, où vous aviez à la fois des agences et bien sûr, il y a la partie digitale, mais est-ce que vous avez constaté que dans votre secteur, c'était en train d'évoluer et comment?
Non, je pense que tout ça, c'est du verbiage confortable. On essaye d'inventer des évolutions qui sont artificielles. La vraie évolution, elle n'est pas numérique. Le numérique, il est permanent, de toute façon, et puis il est là depuis 15 ans, hein. La vraie évolution, c'est ce que moi j'appelle le travail à distance et l'achat à distance. Déjà, on a des très très belles agences que tout le monde connaît, mais elles représentaient avant le Covid à peine 20% de notre activité. C'est-à-dire que la plupart des gens nous téléphonaient, nous skypaient, nous facetimaient, et échangeaient avec nous par mail, par téléphone. Voilà, ils étaient à distance. Eh bien là, ça s'est évidemment accéléré, mais à mon avis, post-Covid, on sera à même pas 10% de clients qui viendront acheter leur voyage dans une de nos agences. Et nos agences, ça sera des magnifiques bureaux, très agréable pour nos collaborateurs pour travailler. Eux-mêmes, d'ailleurs, vont travailler de plus en plus à distance. On le faisait déjà, mais on va l'accélérer. C'est-à-dire que aujourd'hui, venir tous les jours dans un bureau en prenant le métro tous les jours et en revenant par métro tous les jours, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut venir au bureau quand c'est utile et puis il faut rester chez soi quand c'est possible pour limiter les transports, éviter les conséquences climatiques et les conséquences sanitaires. Voilà. C'est vers ça qu'on va. C'est plutôt vers ça qu'on va, plutôt que une digitalisation générale qui existe déjà, de toute façon, et qui est pour le voyage sur mesure, qui est le créneau sur lequel on est, inadaptée dans la phase d'approche. Elle est très adaptée dans la phase finale, hein. Vous envoyez un devis web avec une proposition complète en ligne à votre client qui peut l'acheter en ligne, mais dans la phase de construction, c'est tout sauf de la digitalisation. C'est du contact humain, c'est de la discussion, c'est de l'échange. Et il peut se faire en physique, au téléphone, ou en outil, comme on est en train de faire cette interview ensemble, là, en outil vidéo à distance.
Alors, effectivement, récemment, on a sur ce domaine des voyages, voilà, en tout cas concernant la France, le gouvernement a décidé de fermer les frontières, entre guillemets, elles sont presque effectivement fermées. Vous avez réagi à ce niveau-là par rapport au fait, par exemple, qu'on pouvait aller très bien en Martinique ou en Guadeloupe, donc voyager, mais que vous, vous étiez contraint, je dirais, par rapport à vos clients. Donc, qu'est-ce qui effectivement ne colle pas dans les mesures? On sait bien que le gouvernement a essayé d'adapter au fil de l'eau son dispositif.
En fait, ce qui colle pas dans cette mesure de fermeture de frontières, c'est de fermer les frontières internationales hors Union européenne, alors que c'est les seules frontières où vous pouvez vérifier que vous n'allez pas vous faire infecter parce que vous faites un test PCR à l'embarquement et un test PCR au débarquement à l'arrivée à Roissy. Celles-là, elles sont parfaitement sécures sur le plan sanitaire parce que vous pouvez les contrôler. Par contre, les vraies frontières non étanches, si vous croyez à ce concept de fermeture de frontières sur le plan épidémique, ce qui est un autre sujet, hein. Moi j'y crois pas, les grands spécialistes mondiaux des épidémies n'y croient pas, mais bon, pourquoi pas, admettons qu'on y croit. Eh bien dans ce cas-là, il faut vous fermer les frontières terrestres européennes, parce que vous avez à la fois les volumes, 80% des flux qui passent par les frontières européennes, et puis les pays qui sont très infectés, Portugal, Espagne, etc., et qui ne peuvent pas être contrôlés à 100%, parce que c'est quand on demande un test PCR, quand on vient de l'Union européenne et qu'on arrive en France et qu'on arrive par la voie terrestre, si vous en contrôlez un sur 10 000, vous êtes un génie. Donc ça ne sert à rien. Donc Monsieur Darmanin, quand il fait, je dirais, quand il sort ses statistiques pour montrer qu'il est génial en termes de contrôle, eh bien ça ne sert à rien, parce qu'il peut contrôler à Roissy, sauf que c'est interdit. Donc ça ne sert plus à rien de contrôler, de toute façon c'est interdit. Et par contre, il ne peut pas contrôler sur les routes. Donc c'est des effets de com parfaitement inutiles sur le plan sanitaire et qui ont des conséquences économiques désastreuses. Donc écoutez, de toute façon, moi je suis voyagiste, donc je ne suis pas très crédible pour parler de ça. Donc, on va me dire, oui,
Oui,
mais vous voulez orienter ça. Donc,
voilà.
voilà, ce que je veux vous dire, c'est très important. Nous, on dit très bien, le gouvernement prend des mesures de fermeture de frontières, très bien. Parfait, ils ne nous préviennent même pas d'ailleurs, parce qu'il y a des conséquences financières catastrophiques pour les clients qui devaient partir à court terme. Mais bon, très bien. Mais dans ce cas-là, ils en assument les conséquences, c'est-à-dire qu'ils nous classent de fait dans des activités fermées administrativement, et donc on est traité comme les hôtels de montagne,
Ou les
c'est-à-dire qu'on assume,
restaurateurs.
voilà, on assume 70% de nos charges fixes, sans limite de plafond, ou du moins dans la limite du plafond qu'a imposé l'Union européenne, c'est-à-dire 10 millions d'euros, et sans minimum de chiffre d'affaires à réaliser. Et on aurait déjà encore, malgré ça, un 30% de reste à charge sur nos charges fixes, alors que ça fait un an qu'on ne peut plus fonctionner. Voilà, moi c'est tout ça, c'est la seule chose que je demande au gouvernement, c'est-à-dire que ce n'est pas que je suis en colère, c'est que je dis qu'il faut être cohérent. Ils nous ont beaucoup aidés, hein, soyons tout à fait honnêtes, entre le chômage partiel, les PGE, les mesures d'aide économique au secteur sinistré, de la part de M. Lemoine et de M. Le Maire ont été exceptionnelles. Sauf que là, ça fait un an que ça dure. Là, ils aggravent la situation économique pour nous par leurs propres décisions contestables. Très bien, on l'accepte, on annule nos voyages. Nous, on le fait, contrairement à certains clients qui partent en individuel et qui, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, partent en Guadeloupe sans problème, alors que c'est soi-disant interdit. Mais dans ce cas-là, ils en assument les conséquences. Voilà. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est on nous garantit le chômage partiel indemnisé à 100% jusqu'à fin juin, sauf bien sûr si la situation sanitaire s'améliore. Hein, voilà, évidemment, et qu'on peut refonctionner. Et on demande 70% d'assumer 70% de nos charges fixes, sans limite de plafond et de minimum de chiffre d'affaires. C'est simple, clair, net et précis. Voilà. Et c'est logique, si vous voulez, c'est logique, parce qu'à partir du moment où vous accordez ça aux hôtels de montagne, ou aux activités de restauration complètement sinistrées, qui sont d'ailleurs moins sinistrées que nous, paradoxalement, hein, parce qu'avec le takeaway, ça, ils ont un petit reliquat d'activité. Nous, on ne va pas vendre des voyages en France et en Europe à l'heure actuelle, alors que la France, il n'y a aucun hôtel ouvert, et qu'en Europe, vous êtes en crise sanitaire. Il n'y a pas un client qui part en Europe en ce moment. Ça n'existe pas.
Justement, quelle vision vous avez? Est-ce que vous avez, je dirais, vous projetez, parce que c'est voilà, pour tous, hein, ce qui est compliqué dans cette crise sanitaire depuis plusieurs mois, c'est que finalement, on a du mal à se projeter dans nos différentes activités. Mais dans le tourisme, est-ce que vous projetez, voilà, on peut avoir des envies de voyage, on a des envies de voyage. Mais vous, est-ce que vous dites dans 6 mois, dans 1 an, ça va aller mieux, les touristes vont revenir, on va pouvoir partir. Est-ce que finalement, vous avez une visibilité sur les prochains mois dans votre secteur?
Écoutez, on n'a aucune visibilité sur l'activité, évidemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en demande sur les coûts. Hein. D'ailleurs, le président de la République a souvent insisté sur cette notion de lisibilité. Donc, on demande au gouvernement une vraie visibilité sur les coûts parce qu'on en a marre de savoir qu'on va être indemnisé au chômage partiel à 100% au mois de janvier par un décret qui sort le 31 décembre. Ça, c'est pas gérable pour les entrepreneurs. Par contre, l'activité, évidemment qu'on n'a pas de visibilité. Par contre, on a des pronostics. Et oui. Les pronostics que nous avons, en tout cas les miens, qui n'engagent que moi, c'est que je pense qu'on va sortir de cette crise, au mois de mai ou au mois de juin, parce qu'on aura un niveau d'immunité naturelle beaucoup plus élevé, parce qu'on aura vacciné les personnes à risque, qui vont d'ailleurs augmenter en plus le niveau d'immunité naturelle, et parce que, visiblement, dans l'hémisphère nord, contrairement à ce qui se passe dans l'hémisphère sud, l'été, par les variations de température qu'il y a avec l'hiver, qui sont beaucoup plus faibles en hémisphère sud, a un impact sanitaire sur nos défenses immunitaires. Donc je pense que tous ces éléments-là devraient nous permettre de commencer à avoir un peu de lumière à la fin du printemps, voilà, et pour cet été. C'est ça que j'estime, et je pense que d'ici la fin mai, on ne fera rien. Quelques voyages en France ou en Europe pour ceux qui veulent partir parce qu'ils ont décidé d'aller passer dans une zone un peu plus tranquille sur le plan sanitaire. Un voyage, voilà, mais ça sera marginal. On fera 5% de notre activité, 10% de notre activité. Voilà.
Et vous avez de la part de vos clients, justement, est-ce qu'il y a des nouvelles attentes sur les voyages? Parce qu'on se dit aujourd'hui. Non. Il y a peut-être certaines
nos clients, je vais vous dire, c'est très compliqué. Les clients, ils ont une envie folle de voyager, folle. Et les nouvelles attentes, plus écologiques, plus durables, de toute façon qu'on fait déjà, nous, parce qu'on est des pionniers sur ces sujets, ça attendra plus tard. Pour l'instant, ils veulent revoyager, ils en ont marre. Ils sont comme nous tous, hein. Vous avez envie d'aller boire un verre avec vos amis sur une terrasse, ben, vous avez envie de voyager, d'aller passer 8 jours au soleil en Tunisie, à Sidi Bou Saïd, ou d'aller passer... une semaine sur le Nil, avec vos enfants, voilà. C'est-à-dire que les gens deviennent dingues de ne pas voyager. Je pense que la reprise va être folle. Je pense que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on garde nos équipes, qu'on ne fasse aucun licenciement, parce qu'au-delà du fait qu'on a les moyens de ne pas le faire, grâce en particulier au chômage partiel et aux aides gouvernementales, il faut garder nos forces vives quand ça va redémarrer, parce que ça va redémarrer très très fort, très 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 fort.
Oui, c'est ça l'enjeu, effectivement, et il faut que tout le monde soit là à ce moment-là, au moment de la reprise que vous attendez.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-François.
Vous en prie, c'était un plaisir.
Aujourd'hui, et merci à tous de nous avoir suivis.